Mes frères, je ne veux pas que vous l'ignoriez. Nos pères ont tous été sous la nuée. Ils sont tous passés au travers de la mer. Ils ont tous reçu le baptême de Moïse, dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle et ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Ils buvaient en effet à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher, c'était le Christ. Pourtant, la plupart d'entre eux n'ont pas été agréés par Dieu, puisqu'ils ont été abattus dans le désert. Ce sont là des exemples pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez pas idolâtres, comme certains d'entre eux. Ainsi qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. Ne nous livrons pas à l'inconduite sexuelle, comme certains d'entre eux s'y livrèrent. Il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne provoquons pas le Christ, comme certains d'entre eux le firent. Les serpents les firent disparaître. Ne maugréez pas, comme certains d'entre eux maugréèrent. Le destructeur les fit disparaître. Or, tout cela leur est arrivé à titre d'exemple. Et il a été écrit, pour nous avertir, nous sur qui la fin des temps est arrivée. Ainsi donc, que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Or Dieu est digne de confiance. Il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Avec l'épreuve, il ménagera aussi une issue pour que vous puissiez la supporter. Aussi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je vous parle comme à des gens avisés. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction sur laquelle nous prononçons la bénédiction, n'est-ce pas une communion au sang du Christ ? Le pain que nous rompons, n'est-ce pas une communion au corps du Christ ? Puisqu'il y a un seul pain, nous, la multitude, nous sommes un seul corps, car nous partageons tous le même pain. Voyez l'Israël selon la chair. Ceux qui mangent des animaux offerts en sacrifice ne sont-ils pas en communion avec l'autel ? Que dis-je alors ? Que la viande sacrifiée aux idoles aurait de l'importance ? Qu'une idole aurait de l'importance ? Non, mais ceux qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons, et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Vous ne pouvez pas partager la table du Seigneur et la table des démons. Ou bien voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur ? Sommes-nous plus forts que lui ? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas constructif. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais celui de l'autre. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans poser aucune question par motif de conscience. Car c'est au Seigneur qu'appartient la terre et tout ce qui s'y trouve. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez y aller, mangez de tout ce qu'on vous offrira, sans poser aucune question par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit « Ceci a été offert en sacrifice », n'en mangez pas, à cause de celui qui vous a informé et par motif de conscience. Quand je dis par motif de conscience, je ne parle pas de votre conscience à vous, mais de celle de l'autre. Pourquoi, en effet, ma liberté serait-elle jugée par la conscience d'un autre ? Si moi je prends ma part avec gratitude, pourquoi serais-je calomnié pour ce dont, moi, je rends grâce. Ainsi, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez une pierre d'achoppement, ni pour les Grecs, ni pour les Juifs, ni pour l'Église de Dieu. Comme moi aussi, en tout, je veux faire ce qui plaît à chacun, cherchant non pas mon propre intérêt, mais celui de la multitude, afin qu'elle soit sauvée.
Merci Sophie. Par souci de temps, on va se focaliser sur les 13 premiers versets de ce chapitre. Il y a un paradoxe dans l'histoire. On est constamment en train d'essayer de tirer des leçons de l'histoire et en même temps on constate qu'elle se répète, qu'on répète les mêmes erreurs. Prenons une situation qui a bien occupé les médias ces derniers temps. Alors vous allez dire, pas à la RDS, ici, pendant quelques instants, et après on passera à autre chose. Mais au moment du débat télévisé entre deux représentants de l'UMP, il était question d'afficher une unité, d'afficher une certaine courtoisie et d'être aimable l'un envers l'autre pour éviter de montrer tout signe de division dans le parti, éviter toute attaque frontale, c'était les termes utilisés d'un côté comme de l'autre. Et à l'esprit, il y avait très clairement des tensions passées dans le parti qui avaient été difficiles à gérer. Hein, je ne vais pas revenir sur tous les noms, mais des tensions entre deux personnalités et les conséquences néfastes qui ont suivi. Et maintenant, alors qu'on est une semaine plus tard, c'est difficile d'imaginer plus frontal que ça. On est dans une situation tendue. On veut apprendre de l'histoire, et pourtant on a tendance à répéter les mêmes erreurs. Et ici, l'apôtre Paul, à une échelle individuelle comme à une échelle collective, veut nous permettre d'apprendre du passé, d'éviter certaines trajectoires qui sont néfastes. Et dans ce texte, on va constater qu'il n'a pas peur de faire un grand saut dans l'histoire, un saut en arrière, pour tirer certaines leçons pour le peuple de Corinthe. Et pour nous qui avons lu cette lettre, on a fait nous aussi un grand saut dans l'histoire. Mais à chaque fois, ces deux jalons pour nous, ils vont être utiles pour forger des convictions et nous aider à ne pas retomber dans ces mêmes travers. Il y croit qu'il est possible de ne pas tomber dans ces travers. Le plan, il sera le suivant. Il y aura deux actes symboliques dans les versets 1 à 5 et quatre tentations communes dans les versets 6 à 13. Deux actes symboliques pour commencer. L'apôtre Paul, il a terminé la section précédente ou le chapitre précédent, le chapitre 9, en parlant d'un athlète qui serait disqualifié. Il se représente en tant qu'athlète, il prend cette image et il dit qu'il veut courir de manière à ne pas être disqualifié. Il y a quelque chose d'assez tragique dans une disqualification. Prenez par exemple Johan Diniz, spécialiste de la marche athlétique. Aux Jeux de Londres, il termine à la 8e place, il se présente devant les journalistes et là, s'affiche son nom en dernière position avec la mention disqualifié. Un des journalistes, semble-t-il, lui annonce ça. Il répond, mais qui est disqualifié? Moi? Non, c'est pas possible. J'ai rien accepté de personne. Et pourtant, effectivement, dans le parcours, il avait reçu une bouteille de ravitaillement dans une zone où il n'avait pas le droit d'en recevoir. Et c'est quelque chose de tragique. Alors qu'il était tombé, qu'il s'était relevé dans 50 km, c'est un effort soutenu et il est disqualifié. Il passe du 8e à la dernière place. Avec notre passage, on découvre un parallèle assez naturel. L'apôtre Paul a donc parlé de ce désir de ne pas être disqualifié dans sa manière de vivre selon certains principes. Et il invite les Corinthiens à ne pas être disqualifiés, à ne pas se disqualifier, à tenir certains principes, certaines règles. Mais ce qui peut surprendre, c'est qu'au lieu de s'adresser directement à eux, de l'appliquer à eux, il passe par le peuple d'Israël au temps de Moïse. Il recule dans le temps. Et au verset 5, en parlant de ce peuple d'Israël qui a traversé le désert pour atteindre le pays promis, il dit, ils ont été, au verset 5, abattus dans le désert. Bon, la version, elle fait un peu peur. On a l'impression que c'est règlement de compte. Hein. Mais avec une autre traduction, comme la seconde 21, ils sont morts tout simplement dans le désert. Ils tombèrent morts dans le désert. Autrement dit, l'entrée dans le pays promis, ce qui était leur destination après ce long voyage, leur a échappé comme un athlète qui est disqualifié. Ils n'ont pas pu entrer dans cette terre promise. Alors pourquoi est-ce qu'il prend l'exemple du peuple d'Israël? Pourquoi est-ce qu'il prend cet exemple-là? Ça peut sembler étrange alors qu'il y a 12 siècles qui les séparaient, alors que la plupart dans l'église de Corinthe n'étaient pas d'origine juive. Pourquoi est-ce qu'il prend ça comme exemple? Plusieurs éléments probablement. Déjà d'une part, on le voit dans le Nouveau Testament, cette histoire du peuple d'Israël sert de représentation du projet de rédemption que Dieu a voulu, quasiment dans toutes les lettres, se sert de représentation de ce que Christ a opéré pour les chrétiens. Mais ensuite, on voit au verset 1 qu'il parle de nos ancêtres, autrement dit, les ancêtres de Paul et les ancêtres de ses croyants à Corinthe. Il y a comme un lien, une continuité entre des croyants à ce moment-là dans l'histoire et des croyants au premier siècle. Ce texte qu'on a lu, vous l'avez peut-être relevé dans le ton, il a pour sens une mise en garde. Attention à ne pas suivre leur trajectoire. Et il commence par entrer dans la réalité du peuple d'Israël. Cette marche pour le peuple a été marquée par la traversée de la mer Rouge, par le fait qu'une nuée est venue manifester la présence de Dieu dans le tabernacle. Il y a ensuite allusion à la manne qui a pourvu à ce peuple dans le désert, l'eau qui leur a été donnée alors qu'ils se trouvaient dans ce désert. Ils ont tous connu le baptême de Moïse, c'est ce qu'il affirme ensuite, dans la nuée et dans la mer. Autrement dit, il lit ces éléments à la lumière de Christ et de ce qui se passe pour les chrétiens dans le Nouveau Testament. Il voit un baptême dans ces éléments, un baptême qui se situe au début de la vie du croyant. Moïse était celui qui les avait libérés de cet esclavage, qui les avait conduits, tout comme le Christ est celui qui a libéré les chrétiens et qui les mène. On voit ensuite un deuxième élément. Ils ont tous mangé de la même nourriture spirituelle et ils ont bu le même breuvage spirituel. Ils buvaient en effet à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher, c'était le Christ. Là encore, on note combien sa lecture des Écritures de l'Ancien Testament est christocentrique. Ils voient Christ dans ce rocher au travers duquel ils ont été abreuvés. Au verset 5, malgré ces expériences, ce baptême, malgré le fait d'avoir été nourri spirituellement, la plupart d'entre eux n'ont pas été agréés par Dieu, au verset 5. Qu'est-ce qu'il veut dire par tout cela? Où est-ce qu'il veut en venir avec ces parallèles? L'apôtre Paul a choisi deux actes symboliques, et on en a vu un tout à l'heure. Celui qu'on a vu tout à l'heure, c'est celui du baptême. Et pour lui, il y a clairement un baptême qui a été représenté. Nous, on a eu l'occasion de voir celui de Brenda. Quand on pense à ce baptême, le premier étant le baptême, le deuxième acte symbolique, c'est le fait de prendre ce qu'on appelle le repas du Seigneur ou la scène, le pain et le vin, symbole du corps de Christ et de son sang qui a coulé. Ces deux actes symboliques, l'apôtre Paul les mentionne en parlant de ce peuple d'Israël. Et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il revient sur ces éléments? Je vous suggère qu'en trame de fond, l'apôtre Paul pose la question suivante aux Corinthiens, et on va se la poser à nous aussi. Est-ce que vous pensez réellement que les deux actes symboliques, le baptême, la scène, vont vous préserver de toute chute? Ça n'a pas été le cas pour le peuple d'Israël. Ils ont connu cela, et pourtant ils sont tombés. Aussi important soit-il, et on le voit dans la suite du passage, ils sont très importants, ces actes symboliques. Ils ne garantissent en rien votre sécurité. Dans la deuxième partie, on va voir un certain nombre de dérives. Mais ici, déjà, on peut se poser la question, qu'est-ce qui garantit notre sécurité en tant que croyant? Vers quoi est-ce qu'on se tourne? Est-il possible que ce soir, je me donne de fausses sécurités? Est-ce que je donne des vertus à ce baptême, à cette scène, plus qu'ils n'en revêtent? Un peu comme une sorte de porte-bonheur, j'ai été baptisé, je prends le repas du Seigneur, ce qu'on va faire la semaine prochaine. Et c'est peut-être pas ces éléments-là, mais dans la pensée, dans cette même pensée, ça peut être quelque chose du genre, mais je suis né dans une famille chrétienne, il y a comme un début de trajectoire, ça peut pas mal se passer pour moi. Je suis toujours allé à l'église. Pas n'importe quelle église, il y avait tel pasteur qui était là. Et d'ailleurs, je me suis fait baptiser par tel pasteur. Et chaque fois, on estime que l'élément constitue comme une garantie de choses qui vont bien se passer. Ça s'est bien passé à ce moment-là. J'ai eu ces jalons-là. Je prends la scène. Je me suis, Je me suis rendu régulièrement dans telle église. Les choses devraient bien se passer pour moi, non ? Chacune de ces choses peut faire légitimement partie de notre cheminement et on peut s'en réjouir. Mais pour l'apôtre Paul, ça ne garantit en rien l'issue. Et le peuple d'Israël est là pour en témoigner. Au-delà des fausses sécurités, qu'est-ce que l'apôtre Paul a à l'esprit quand il pense à ces occasions de chute ? Qu'est-ce qui peut provoquer une chute grave ? Qu'est-ce qui pouvait s'avérer dévastateur ? On passe aux quatre tentations communes dans les versets 6 à 13. On arrive maintenant ce soir à la fin de notre mini-série sur les chapitres 7 à 10 d'1 Corinthiens. Il y a une thématique qui a été présente tout au long et qu'on peut essayer de relever. Au chapitre 6, déjà, il y a une petite phrase qu'on trouvait, on l'a entendue tout à l'heure, dans le chapitre 10, au verset 23. « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. » N'est-ce pas le thème de la liberté ? La liberté. Si on faisait un bref survol pour le constater, dans le chapitre 6, on découvre que la liberté que certains envisageaient, c'était la liberté de pouvoir se rendre vers des prostituées dans les temples à Corinthe et de pouvoir le faire, justement, sans contrainte. Mais Paul affirme que cette prétendue liberté, elle est destructrice, asservissante. Dans le chapitre 7, c'est la liberté d'être marié ou non. Et s'il décourage fortement et formellement la rupture de l'engagement du mariage, il reconnaît que le fait de ne pas se marier peut comporter certains avantages pour être disponible dans le service. Au chapitre 8, il invite ceux qui ne voient aucun mal à manger des viandes offertes aux idoles, à être prêts à renoncer à leur liberté, par souci de ceux qui auraient une conscience plus faible et qui auraient de la peine à voir cela. Au chapitre 9, il affirme, lui, renoncer à sa liberté, ses droits, parce qu'il voit la priorité de l'Évangile. Il est prêt à renoncer à de l'argent pour vivre. Il est prêt à travailler de ses mains pour que l'Évangile soit mis au centre. Au chapitre 10, on le voit, il revient sur cette question des viandes sacrifiées. Il va un pas plus loin dans sa mise en garde. Toutes ces personnes qui se disaient « Mais aucun problème, moi je peux aller dans le temple et manger ces viandes sacrifiées aux idoles. Je suis libre après tout, non ?» Et avec tout ça, on réalise qu'il y a deux visions de la liberté. Deux visions qui sont opposées de ce que c'est que la liberté. Dans un livre qui s'intitule « La tyrannie du plaisir », Jean-Claude Guibaud relève ces deux conceptions opposées et met en évidence quelque chose d'intéressant, c'est le concept de fidélité. Quelle que soit notre manière de voir la liberté, on sera fidèle à quelque chose. Il commence par la conception courante dans notre société de la liberté, dans le domaine de la sexualité en particulier. Elle dit la chose suivante. Nous jugeons toutes les valeurs tournant autour de la constance, de l'engagement, de la durée, comme si elles relevaient d'une servitude volontaire devenue scandaleuse. Le plaisir, le désir, le bonheur lui-même sont désormais associés au nomadisme, à l'errance, à la tribulation. Et continue plus loin en disant « Extraordinairement pourtant, nous acceptons de nous soumettre dans le même temps à d'autres sortes de fidélité qui dans le passé eussent été jugées trop contraignantes. La fidélité à un projet professionnel par exemple, la fidélité à soi-même contre vents et marées, les fidélités groupusculaires ou tribales, et bien entendu la fidélité à ses propres penchants. » Autrement dit, cette conception-là de la liberté, c'est qu'il faut suivre ses désirs, ses passions, ses pulsions. Mais il faut reconnaître en même temps qu'il y a là une fidélité, justement, et une soumission à ses désirs. L'autre conception de la liberté, c'est la suivante. Pour les anciens, en effet, qu'ils fussent chrétiens ou platoniciens, la liberté humaine ne résidait pas dans cette fidélité ou désir, mais au contraire dans notre capacité à leur désobéir. C'était la maîtrise de soi et non l'abandon aux pulsions qui était assimilée à une liberté active. La question de fond qu'il pose dans son livre, elle est très bien documentée, c'est est-ce que notre société est véritablement devenue plus libre en laissant dominer nos désirs et nos pulsions, en les laissant nous diriger, est-ce qu'on est vraiment devenu plus libre? Le titre nous donne la couleur, il parle de la tyrannie du plaisir. On n'est pas devenu plus libre. On n'est pas devenu plus libre. Et il suffit d'être attentif à la question, bon là en l'occurrence de la sexualité dans les médias, pour réaliser que cette liberté, elle n'est pas si épanouissante que ça. Et pour l'apôtre Paul, il a clairement la deuxième conception de la liberté en vue. Au verset 6, ce sont là des exemples pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Pour lui, la liberté, elle ne consiste pas à se laisser emporter par nos désirs et nos passions. Ce serait finalement devenir esclave. C'est plutôt pouvoir leur désobéir à ses pulsions, à ses désirs. Et par la suite, il mentionne quatre tentations devant lesquelles les membres du peuple d'Israël et aussi les Corinthiens avaient tendance à céder. On va essayer de comprendre en même temps et de les appliquer à nous-mêmes. Mais on peut relever les impératifs, les quatre. Ne devenez pas idolâtres, ne nous livrons pas à l'inconduite sexuelle, ne provoquons pas le Christ, ne maugréez pas. Si on commence avec les premiers, au verset 7, il dit « Ne devenez pas idolâtres, comme certains d'entre eux, ainsi qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. Ne nous livrons pas à l'inconduite sexuelle, comme certains d'entre eux s'y livrèrent. » Avec la citation, au verset 7, on réalise qu'il fait référence au moment où le peuple d'Israël s'est fait un veau d'or ou un taurillon, et où ils se sont mis à adorer ce taurillon. Ils vont se comporter comme un taurillon, manger, boire, et ensuite se laisser aller sur le plan sexuel. Maintenant, comme on l'a vu au chapitre 7, il faut dire avec force que c'est totalement faux de penser que la Bible a une perspective négative sur le plaisir, sur la sexualité, l'amour entre un homme et une femme. Au début du chapitre 7, si vous vous souvenez bien, il dit explicitement que les époux ne devraient pas se priver l'un de l'autre quand il s'agit de relations sexuelles. Et quant à la Bible dans son ensemble, l'amour, le plaisir est présent. Ils sont présents dans le cadre de l'engagement. Genèse, Proverbes, Cantique des Cantiques entièrement consacrés à cela. Autrement dit, c'est une très bonne chose. Ce qui est problématique, c'est lorsque cet amour, le sexe, prend une place, la place d'un dieu de contrefaçon quand il est élevé à une position qu'il ne devrait pas avoir. Quand c'est ce qui occupe l'essentiel de nos décisions, de nos pensées. Et si pour les Corinthiens, la tentation c'était d'aller fréquenter des prostituées dans les temples, la tentation pour nous, elle est peut-être différente. Ce sera peut-être dans les images que je visionne, dans les sites que je consulte, les magazines que je lis, les conversations que j'ai avec les collègues, est-ce que ma fidélité, elle va être avant tout vis-à-vis de mes pulsions, ou est-ce qu'elle va être ailleurs? Pour ce qui est des conversations, il faut reconnaître que pour la plupart des gens autour de nous, ce qui choque, c'est finalement de ne pas pouvoir en parler. Dans un livre drôle sur la culture française, un certain Louis-Bernard Robitaille, un Québécois, c'est un livre qui s'intitule « Ces impossibles français », il ironise sur certains traits de la culture française. Et un des chapitres, c'est justement l'importance du sexe dans notre société. Et voici ce qu'il écrit en parlant de cette question. À quelques exceptions près, personne n'osera s'estimer tout bêtement choqué car à Paris, personne ne veut être soupçonné de pruderie. Le choc, c'est si on est justement choqué. En gros, ce serait être complètement marginalisé de ne pas vouloir rire à une plaisanterie lourde ou à une histoire qui concerne la sexualité. Le fait de faire du sexe, un dieu de contrefaçon, c'est véritablement bien ancré dans notre culture. Une chose qui est bonne au départ, belle au départ, mais qui, parce qu'on l'idolâtre, devient quelque chose de tordu. Et on pourrait dire la même chose d'autre chose. de choses qui sont bonnes au départ, comme une carrière professionnelle, la famille, un souci d'une bonne réputation, d'un certain pouvoir. Je mentionnais un très bon livre sur le sujet, si jamais vous voulez creuser la question. Il s'intitule « Les idoles du cœur » de Timothy Keller. Et on passe ensuite au troisième et quatrième impératif. Ce sont les suivants. Ne provoquons pas le Christ comme certains d'entre eux le firent. Ne maugréez pas. Là, c'est l'idée de se plaindre. Et pour les Israélites, dans le désert, ils se plaignaient de quoi ? Eh bien, ils se plaignaient de leur situation dans un désert. Qui nous donnera à manger ? Qui nous donnera à boire ? C'était les questions qu'ils soulevaient. Autrement dit, vous ne comprenez pas dans quelle situation on se trouve. Vous ne voyez pas qu'on est en train de mourir de faim ? Et en arrière-plan, il y a l'idée de Dieu, qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il va intervenir finalement ? Et au travers des deux lettres de l'apôtre Paul aux Corinthiens, on réalise qu'il y avait ce genre de contestation vis-à-vis de lui en particulier, mais au-delà, on le sent vis-à-vis de Dieu. Et nous ? Quand on passe par une situation difficile, est-ce qu'il n'y a pas la tentation la tendance de penser que personne d'autre ne comprend réellement ce qu'on est en train de vivre. Si tu voyais à quel patron moi j'ai affaire pendant la semaine, tu comprendrais pourquoi je réagis mal. Si tu avais les mêmes tensions que moi j'ai au travail, tu verrais pourquoi j'ai de la peine à prendre du temps pour les autres, à montrer de la disponibilité. Si tu voyais la situation familiale dans laquelle je me trouve, tu comprendrais pourquoi j'en veux à Dieu. Et de fil en aiguille, on arrive au moment où la personne estime que c'est déjà un assez grand cadeau offert à Dieu que d'aller à l'église, de le prier. C'est déjà un cadeau qu'on lui fait. Et la situation s'est complètement inversée. C'est lui l'offenseur et nous sommes l'offensés. Avec cette question qui vient à la surface, s'il est vraiment puissant, s'il est vraiment Dieu, pourquoi est-ce qu'il n'a rien fait dans ma situation ? C'est intéressant de voir que l'apôtre Paul dit par la suite qu'aucune épreuve ne vous est survenue qui n'ait été humaine. C'est vrai qu'il y a des périodes qui sont difficiles, particulièrement difficiles, des situations qui sont pénibles à vivre, mais l'affirmation là, c'est que c'est le lot de tout être humain de vivre des épreuves. Et nos circonstances, elles ne peuvent pas juger nos mauvaises réactions. En particulier, elles justifient en rien notre mise à l'épreuve de Dieu, comme s'il était coupable, comme s'il devait montrer ce qu'il a dans le ventre. Maintenant, alors qu'on a à l'esprit le début de ce message, cette intervention, on peut se poser la question, est-ce qu'il est vraiment possible d'apprendre de l'histoire, d'apprendre d'eux, du peuple d'Israël, des Corinthiens, et pourtant ne pas retomber dans les mêmes travers ? Est-ce que l'histoire se répète dans ma vie ? Est-ce que finalement je vais retomber dans les mêmes travers ? L'apôtre Paul termine avec cette section en disant quelque chose de magnifique. Verset 13, « Dieu est digne de confiance. » Il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Avec l'épreuve, il ménagera aussi une issue pour que vous puissiez la supporter. On peut lire aussi « Dieu est fidèle ». Et de deux façons, Dieu veut nous venir en aide si nous sommes croyants ce soir. Il se porte garant de la chose suivante. Il ne permettra pas que vous soyez mis à l'épreuve au-delà de vos forces. Et la deuxième chose, avec l'épreuve, il ménagera aussi une issue pour que vous puissiez la supporter. L'apôtre Paul peut prendre deux exemples avec des siècles d'écart en voyant les rechutes des uns et des autres et pourtant avoir la certitude que Dieu est fidèle. Si nous, on se montre fidèle vis-à-vis de nos désir, pour lui, c'est certain. C'est certain, on court à notre perte. On sera disqualifié. C'est destructeur. Par contre, pour celui ou celle qui compte sur la fidélité de Dieu, il y a l'assurance que l'épreuve ne sera pas au-delà de nos forces. Et il pourvoira à une issue pour qu'on puisse la supporter. On a dit, le peuple d'Israël sert de représentation, et j'aimerais terminer avec une petite illustration de ce qu'ils peuvent être comme encouragement pour nous. Un spécialiste de l'Ancien Testament imagine une conversation avec quelqu'un qu'on aurait rencontré dans le désert et on lui aurait posé quelques questions. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Et il pourrait dire quelque chose du genre, j'étais dans un pays, en Égypte, sous la menace de mort, esclave, mais j'ai retrouvé refuge sous le sang de l'agneau, la nuit avant le départ. Et notre médiateur nous a conduits hors de ce pays et nous sommes en route pour la terre promise. Mais on n'est pas encore là. Cela dit, il nous a donné sa loi, faisant de nous sa communauté. Et il nous a donné son tabernacle parce que nous avons à vivre de grâce et de pardon. Sa présence est au milieu de nous. Et il va rester avec nous jusqu'à ce que nous arrivions chez nous. Et il commente en disant, ce serait exactement ce qu'on dirait en tant que chrétien. Dieu est fidèle. Il était là au départ. Il sera à l'arrivée. Il est présent tout au long de ce cheminement, accordant grâce et pardon. Et ce qui garantit cet engagement vis-à-vis de nous, c'est qu'avant même le départ, ce Fils a été cet agneau sacrifié et dont le sang nous a protégés. Je vous invite à prier. Notre Père, nous voulons te demander pardon pour toutes nos fausses sécurités, pour tout ce que nous pensons pouvoir nous garder de toute chute. Et nous voulons trouver notre refuge en toi, le Dieu fidèle. Nous te demandons pardon, Père, pour toutes les tendances que nous suivons, tous les désirs auxquels nous sommes parfois fidèles. Et par ta grâce, nous voulons être relevés. Nous voulons apprendre à marcher avec toi et par la foi. Accorde-nous cette grâce de reconnaître en toi le Dieu fidèle, présent, et de vivre en nouveauté de vie. Je te prie en particulier une fois encore pour Brenda, qu'elle puisse vivre et courir cette course jusqu'au bout, jusqu'à la fin, en comptant sur ta fidélité, en étant certaine de ta présence et d'un sacrifice offert pour elle. Te le prions au nom de Jésus. Amen.